vole dans les abysses. Aucun bruit, si ce n'est le ronronnement de l'avion qui s'anime sous ses mains. Il ne voit rien, mais il ne s'arrête pas. Il connaît son objectif. Il doit arriver à Saïgon d'ici peu. Il a tout juste fait la moitié du trajet. Et il n'est pas en avance. Alors, ce n'est pas le moment de tergiverser. Il faut simplement diminuer un peu l'altitude, juste un peu, qu'il se repère par rapport au sol. Voilà, descendre un peu et continuer à toute vitesse. Alors qu'il vole, il scrute la pénombre, concentré, serein, paisible. Concentré sur sa mission, et puis c'est le choc. Sorti de nulle part, imprévisible, terrassant, l'avion se heurte à un plateau rocheux. Preuve, s'il en fallait, du noir profond de la nuit qui l'entoure. Sans le voir venir, l'appareil roule sur lui-même, s'écrase et s'éclate en mille morceaux. Le crash est violent, inattendu. C'est la fin. La fin de ce vol. La fin de cette traversée. La fin de ce défi jamais relevé. Mais un nouveau miracle. Après quelques minutes d'inconscience, Antoine ouvre les yeux, péniblement. Visiblement, son heure n'a pas sonné. Pas encore. Son rêve n'a pas eu raison de lui. Pas encore. Si ce n'est quelques entailles, il s'en sort indemne. Son mécanicien, lui aussi, est sauf. La terre où ils ont posé le pied, ou plutôt la terre qui vient de les happer violemment, c'est l'Égypte. Antoine retrouve l'enfer salvateur du désert, pour un long moment cette fois. D'abord, il compte les heures. Puis, les heures deviennent des jours. Un jour, bientôt deux, et puis trois. Les comparses sont à bout de force. Leur plaie nécessiterait des soins. Ils errent sans repère, trois jours, sans eau ni vivre. Ils marchent sans rencontrer âme qui vive. La foi en même temps que l'énergie quitte peu à peu leur cœur et leur corps. Avant le sauvetage inespéré, en Coran. Un récit que Saint-Exupéry livrera dans Terre des Hommes, qui lui vaudra le grand prix du roman de l'Académie française en 1939. Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-marines. C'est de parvenir en un point exceptionnel, où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure. C'est par le dépassement de soi que l'on devient un homme. La Seconde Guerre mondiale éclate. Antoine sert dans l'armée de l'air. Il effectue des missions de reconnaissance et de bombardement de jour. Il est en vol au-dessus d'Arras quand les chars allemands envahissent la ville. Son bloc 174 est criblé de balles. Encore une situation périlleuse de laquelle il s'extirpe miraculeusement. Il réussit à retourner à la base avant qu'il ne soit trop tard. L'entièreté de son équipage est sain et sauf. Cet exploit supplémentaire, devrais-je dire, lui vaudra d'être récompensé de la croix de guerre. Mais après l'armistice, en juin 1940, la situation politique, très complexe, le pousse à quitter la France. Il rejoint New York, où le succès retentissant de Vol de nuit l'a rendu très célèbre. Il y devient une des voix de la résistance. Son objectif, faire entrer en guerre l'armée des États-Unis. En 1942, il publie « Pilote de guerre » afin de sensibiliser l'opinion nord-américaine au conflit européen. Les États-Unis finissent par entrer en guerre, mais Antoine est en proie à la dépression. 1943. Depuis l'autre côté de l'Atlantique, il écrit « Le Petit Prince », conte philosophique mêlant légèreté et pessimisme vis-à-vis de la nature humaine. Le livre connaît un succès mondial, mais l'auteur aviateur va de plus en plus mal. Son inactivité et son immobilisation le plombent. Il ne pense qu'à une chose, se remettre en action. En avril 1943, il quitte New York et reprend immédiatement du service dans l'aviation. Il respire à nouveau. Chez lui, pas en Europe, pas en France, dans les airs simplement. Mais quelques mois plus tard, alors qu'Antoine se sent à nouveau poussé des ailes, une annonce tombe. Une annonce dévastatrice, qui vient menacer son équilibre. Il est considéré comme impropre aux missions de combat en raison de son âge et de son mauvais état de santé général, causé par ses accidents aériens. C'en est trop. Il supporte de moins en moins cette inaction forcée. Cette condamnation au sol. Non, cette situation est intolérable, il n'est pas justifié. L'armée manque de pilotes, la guerre fait rage. C'est une aberration, je suis tout à fait à même de voler, alors laissez-moi faire, laissez-moi voler, vous verrez. Ses plaidoyers auront finalement raison de la décision d'écartement de ses supérieurs. Au printemps 1944, à force de persuasion, il est finalement autorisé à rejoindre à nouveau le groupe de reconnaissance 233, chargé de diverses missions. 31 juillet 1944, 8h25. Antoine de Saint-Exupéry quitte la Terre à bord de son P-38, à Bastia, en Corse. L'appareil est doté d'une silhouette inhabituelle en raison de sa conception bimoteur bipoutre, dont la nacelle centrale contient le cockpit et l'armement. Habituellement, il est utilisé pour la chasse, l'escorte à longue distance de bombardiers, l'attaque au sol ou encore la photographie aérienne. Ce jour-là, il s'envole pour une mission de routine. Antoine est chargé de réaliser la cartographie de la région nécessaire pour le prochain débarquement en Provence. Antoine est seul à bord. Son avion n'est pas armé. Et il emporte au préalable du carburant pour 6 heures de vol. Dernier écho radar. Moins d'un quart d'heure après le décollage, tout s'arrête. Son avion s'est évaporé au-dessus de la Méditerranée. Antoine de Saint-Exupéry, 44 ans, est porté disparu lors de ce qui devait être un simple vol de routine. Le petit prince est orphelin. Cela devait arriver un jour. Le but peut-être ne justifie rien, mais l'action délivre de la mort. Ce qui donne un sens à la vie, donne un sens à la mort. Sur sa mort, le mystère plane encore dans les airs. Abattu par l'ennemi, panne technique, malaise en plein vol, suicide. Les dernières années de sa vie, Antoine, diminué physiquement et désespéré par le monde qu'il voyait, était en proie à la mélancolie. La veille de sa mort, il confiait dans une lettre adressée à son ami Pierre Dalloz : « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante, et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. » En 1950, reconnu mort pour la France, il est cité à l'ordre de l'armée aérienne à titre posthume pour avoir prouvé sa passion de servir et sa foi en le destin de la patrie. La disparition de son corps alimentera des années durant maintes théories sur sa mort. Près de 40 ans plus tard, un pêcheur marseillais découvre dans ses filets une gourmette en argent oxydé par les embruns, avec gravé sur celle-ci un nom, Antoine de Saint-Exupéry.